Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, La Mouette d'Anton Tchekhov, tragédie en quatre actes. Le jeune Treplev s'apprête à faire interpréter par Nina, une jeune fille des environs dont il est amoureux, un texte qu'il a écrit. Dans l'auditoire, il y a Arkadina, sa mère qui est actrice, et le compagnon de celle-ci, Trigorine, un écrivain célèbre. Et puis les voisins de la campagne, notamment Masha, une jeune femme toujours vêtue de noir, parce qu'elle porte le deuil de ses vies. Nina ne rencontrera pas la réussite, reniée par sa famille et délaissée par son amant. Elle tombera amoureuse de Trigorine qui l'abandonnera, puis reviendra avec Arkadina. Et Treplev restera inconsolable de ne pas avoir eu une mère plus maternante ou de ne pas avoir eu sa mère pour lui tout seul. Treplev montre à Trigorine une mouette qu'il a abattue. Il imagine comment il pourrait en faire le sujet d'une nouvelle. Une jeune fille passe toute sa vie sur le rivage d'un lac. Elle aime le lac comme une mouette. Elle est heureuse et libre comme une mouette. Mais un homme arrive par hasard et quand il la voit, par désœuvrement, la fait périr comme une mouette. La mouette devient le symbole de l'existence de Nina, heureuse près de son plan d'eau, mais détruite par le chasseur Trigorine. Nina laisse à Treplev la certitude que sa vie est maudite. Ce dernier finira par se tuer. On trouve dans cette pièce les tourments de personnages qui se cherchent, qui cherchent l'amour, mais le laissent fuir, ou passent à côté sans le voir, et qui souffrent de leur passion ou de leur ambition. C'est dans le dénouement tragique que les personnages sont confrontés à leur image. La première représentation de la pièce fut un échec total. Une grande comédienne russe de son temps, qui jouait Nina, avait été si intimidée par l'hostilité du public qu'elle en perdit la voix. Tchekhov n'en fut guère surpris. Il fallut attendre la reprise au Théâtre d'Art de Moscou le 17 décembre 1898 pour que, enfin, le public lui fasse un accueil triomphal. C'est aujourd'hui l'une des pièces les plus connues de l'écrivain. Anton Pavlovitch Tchekhov est né en 1860, au bord de la mer d'Azov, au sud de la Russie. Son père est le fils d'un serf qui a acheté son affranchissement en 1841. Il tient une petite épicerie de commerce. Sa mère, issue également d'une ancienne famille de serfs, a 19 ans quand elle se marie. Les parents élèvent les 6 enfants Tchekhov qui grandissent dans la pauvreté et les restrictions. En 1876, le commerce du père tombe en faillite, la famille s'exile à Moscou, ne disposant d'aucun revenu régulier, vivant dans une profonde misère. Dès cette époque, Anton, qui reste dans son village natal, est de fait livré à lui-même. En 1879, Anton Tchekhov débarque à Moscou pour y entreprendre les études de médecine. Malgré l'obtention de son diplôme de médecine après 5 ans d'études, il privilégie son activité d'écrivain qui lui procure des revenus permettant d'aider sa famille. Son activité de médecin lui fournit beaucoup de matière pour ses récits et durant la deuxième partie des années 1880, il écrit énormément. Il prend connaissance des travaux de son jeune frère Mikhaïl, décédé d'une tuberculose foudroyante en juin 1889. Ses travaux portent sur le droit pénal et la vie pénitentiaire dans l'Empire russe. Ceci décide Tchekhov, à la fin 1889, à entreprendre un voyage dans l'extrême-orient russe, en Sibérie et à l'île de Sakhaline, afin de témoigner de la réalité de cette province isolée et sur le bagne situé dans cette île-prison. Il séjourne 3 mois dans l'île, de juillet à octobre 1890. Il visite de nombreuses prisons. Mais Tchekhov est autorisé à tout voir, sauf les prisonniers politiques. Il rentre à Moscou en décembre 1890. En 1893, il décrit son expérience dans l'essai « L'île de Sakhaline », dépeignant d'une façon bouleversante, sous la forme d'un récit de voyage, la vie misérable des confins de l'Empire russe. En 1887, il assiste à la création de sa grande pièce dramatique, Ivanov. Puis entre 1888 et 1889, il écrit plusieurs petites pièces en un acte, ainsi que L'homme des bois, qui, une fois remanié en 1896 sous le nom d'Oncle Vania, devient sa prochaine pièce importante, qui demeure aujourd'hui une de ses pièces les plus connues. En 1895, il termine l'écriture de son drame La Mouette, créé à Saint-Pétersbourg. Son père décède en 1898. Souvent malade, Tchekhov sera en Crimée, connu pour son climat clément. À Yalta, il fait la connaissance de plusieurs auteurs réputés de l'époque avec qui il se lie d'amitié, parmi lesquels l'écrivain révolutionnaire engagé Maxime Gorki. Pourtant, malgré sa constante implication en tant que médecin bénévole, il décrit sans cesse l'atmosphère provinciale et désolée de Yalta, très loin de la vie mondaine et culturelle de Moscou et de Saint-Pétersbourg. En 1898, il fait la connaissance de l'actrice Olga Knipper, 1868-1959, qui joue par la suite souvent le premier rôle de l'ensemble de ses pièces dans ce théâtre. Il se marie à Moscou le 25 mai 1901. Tchekhov doit rester en Crimée pour raison de santé, alors qu'Olga continue à jouer à Moscou. Il écrit en Crimée les deux pièces importantes, Les Trois Sœurs, en 1900, et La Cerisée, en 1903. Il tente sans succès d'enrayer sa tuberculose galopante grâce à des voyages à l'étranger. Il passe ainsi beaucoup de temps à Nice pendant les hivers 1897 à 1901. Début juin 1904, Tchekhov et sa femme partent pour l'Allemagne, une fois de plus pour se soigner. Il décède dans ce pays le 15 juillet 1904. Son corps est transporté par chemin de fer à Moscou et inhumé aux côtés de son père le 22 juillet 1904. Ma mère est déjà contre moi, contre ce spectacle et contre ma pièce, parce que ce n'est pas elle qui se joue, mais Nina. Elle ne connaît pas ma pièce, mais elle la déteste déjà. Elle est furieuse parce qu'ici, sur cette petite scène, c'est Nina qui va remporter un succès, pas elle. Un vrai cas psychologique, ma mère. Un talent indiscutable, intelligente, capable de sangloter sur un livre, de déballer tous les vers de Nebrassov par cœur, soigne les malades comme un ange. Mais c'est donc en sa présence de faire un compliment à la Duse. Oh là là, c'est à elle qu'il faut adresser des compliments. C'est sur elle qu'il faut écrire, elle seule. Il faut l'ovationner, s'émerveiller de son jeu extraordinaire dans La Dame aux Camélias ou dans L'Ivresse de vivre. Mais comme ici à la campagne, ce genre d'ivresse, il n'en est pas question. Elle s'ennuie, elle se fâche. Nous sommes tous ses ennemis. Et tout est notre faute. Et puis elle est superstitieuse. 3 bougies ou le chiffre 13 ? Elle prend peur. Elle est avare. Sur son compte en banque en Odessa, il y a 70 000. Je le sais parfaitement. Mais demande-lui de te prêter même une petite somme. Elle va se mettre à pleurnicher. Tu vois, ma mère, elle ne m'aime pas. Pense donc, elle veut vivre, aimer, porter des couleurs claires. Et moi, comme j'ai déjà 25 ans, je lui rappelle qu'elle n'est plus si jeune. Quand je ne suis pas là, elle n'a que 32 ans. En ma présence, elle en a 43. Voilà pourquoi elle me déteste. Elle sait aussi que je n'aime pas le théâtre. Elle, elle adore le théâtre. Elle s'y voit au service de l'humanité, de l'art sacré. Mais pour moi, le théâtre d'aujourd'hui n'est que routine et tricherie. Quand le rideau se lève et que dans la lumière artificielle d'une chambre à 3 murs, Ses grands talents, ses prêtres de l'art sacré nous montrent comment les gens mangent, boivent, aiment, marchent et portent le veston. Quand au milieu de tout ce fratras d'images et de phrases vulgaires ou triviales, on essaie de pêcher une petite moralité facile à digérer et commode pour l'usage domestique. Quand à travers 1000 variations, on me resserre encore et encore toujours la même chanson, toujours la même chanson, toujours la même chanson, moi je m'enfuis. Je fuis comme Maupassant fuyait la tour Eiffel dans la vulgarité qui lui pressurait le cerveau. Le théâtre, on ne pourra jamais s'en passer. Il faut des formes nouvelles, de nouvelles formes. Voilà ce qu'il nous faut. Et s'il n'y en a pas, mieux vaut rien du tout. J'aime ma mère, je l'aime très fort, mais elle mène une vie insensée. Tout ce temps qu'elle passe à bichonner son homme de lettres, là, les journaux qui n'arrêtent pas de tripatouiller son nom, ça m'épuise, moi. Parfois, c'est l'égoïsme d'un seul mortel qui parle en moi. Je me mets à regretter que ma mère soit une actrice célèbre et il me semble que si c'était une femme ordinaire, je serais plus heureux. Oncle Pierre, peut-il y avoir une situation plus stupide et plus désespérante que la mienne? Par exemple, quand elle a des invités, c'est toujours des hommes célèbres, des artistes et des écrivains. Et là, au milieu, je suis le seul à n'être rien. On m'admet uniquement parce que je suis son fils. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis? J'ai abandonné l'université en troisième année, disons pour des raisons indépendantes de la volonté de la rédaction. Aucun talent, côté argent, pas un sou. Et sur ma carte d'identité, bourgeois de Kiev. Parce que mon père était un bourgeois de Kiev, même si c'était aussi un acteur réputé. Et voilà, dans le salon de maman, tous ces artistes et écrivains m'accordaient gentiment leur attention, et moi, j'avais l'impression qu'en me regardant, ils mesuraient ma médiocrité. Je devinais ce qu'ils pensaient. J'étais humilié et j'en souffrais. C'était la chronique littéraire de Gilles Labourois. À bientôt.